Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé sur cette chaîne un format de critique ciné. Alors critique, c'est un bien grand mot, hein. L'objectif c'est de vous donner mon avis sur des films, des séries qui viennent de sortir pour savoir si ça vaut le coup ou pas d'aller y jeter un petit coup d'œil. On a déjà fait Master of the Air, qui est une très très bonne série, hein. Vous pouvez retrouver ma chronique là-dessus, bien évidemment, sur la chaîne. Et avec vous, j'aimerais aborder aujourd'hui une autre série qui fait pas mal de bruit en ce moment, à savoir la série Shogun, et oui, qui est disponible sur Disney+. Alors, est-ce que Shogun va permettre à Disney+ de casser la baraque comme Master of the Air a cassé la plateforme Apple ? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, il y a pas mal de chroniques qui tournent autour, des gens qui aiment, des gens qui aiment pas. Je me suis lancé dedans. Et moi, je trouve ça très très bien, et je vais vous dire pourquoi. Alors, sachez qu'au moment où je tourne cette émission, tous les épisodes de la série ne sont pas sortis. Moi, je n'ai vu que les 7 premiers épisodes de la série, donc peut-être que la fin de série sera une déception, peut-être que ça sera une révélation, je ne sais pas. En tout cas, je donne mon avis sur les 7 premiers épisodes de la série Shogun. Donc cette série, ça parle de quoi ? Ça parle, grosso modo, du Japon médiéval au début du XVIIe siècle et d'une période un petit peu trouble. Voilà. C'est une série qui s'appuie sur un roman qui a été écrit par un certain James Clavell, qui est paru en 1975, qui a eu un petit succès, hein, pour parler de... c'est un euphémisme, voilà. Il a très très bien marché, son roman. Et d'ailleurs, il a tellement bien marché qu'il y a déjà eu une première série Shogun dans les années 80. Alors, je n'ai pas vu cette série, donc je ne pourrais pas vous donner mon avis là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que dans ce casting de 1980, eh bien, le protagoniste principal, c'était Richard Chamberlain. Richard Chamberlain, il a bercé mon enfance avec des films comme Alan Quatermain, par exemple, hein, qui sont quand même des films qui sont pas très très bien, on va pas se le cacher. Mais je vous rassure, Richard Chamberlain, il a une belle carrière, il a fait d'autres films, hein, comme La Tour Infernale, il me semble, mais c'était pas son plus grand rôle, hein. Quatermain, c'était surtout le pari de détrôner Indiana Jones, pari perdu. Voilà. Alors, cette nouvelle série Shogun, qu'est-ce que ça donne ? C'est disponible sur Disney+, et donc on va reposer un petit peu les bases de l'histoire. Ça se passe donc au début du XVIIe siècle, dans un Japon qui va s'ouvrir de plus en plus au monde, et un Japon qui va se christianiser. Jusque-là, la période n'est pas trop trop folle. On est dans une sorte de guerre civile, où on a plusieurs chefs militaires qui s'affrontent, c'est ce qu'on appelle la période Sengoku, et c'est en gros le bordel. J'ai eu l'occasion d'aborder tout ça dans un livre qui s'appelle Les Samouraïs, qui sortira dans le commerce, je fais ma pub, hein, excusez-moi, à peu près en octobre 2024, et c'est un livre que j'ai eu la chance de diriger avec plein d'experts du Japon, et particulièrement des samouraïs, et donc on aborde cette période compliquée et difficile dans ce bouquin-là, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Voilà. Bref, dans l'histoire du Japon, il y a cette grande période de guerre entre plusieurs chefs qui se tirent la bourre, et ce qu'on peut retenir dans cette histoire du Japon, c'est qu'il y a eu trois grandes figures qu'on appelle les unificateurs qui ont œuvré à l'unification du Japon. On a tout d'abord un gars qui s'appelle Oda Nobunaga, puis Toyotomi Hideyoshi, et enfin Tokugawa Ieyasu. Si je vous dis tout ça, c'est parce que ça a son importance, hein, puisque la série se base sur un bouquin, un roman. Le roman a des personnages qui sont fictifs, qui peuvent prendre des libertés, mais dans ce roman, ces personnages sont très fortement inspirés de plusieurs figures historiques, dont certains de ces unificateurs du Japon, hein. On est clairement dans ce contexte historique, ça s'inspire à fond de tout ça, donc même si c'est une fiction, on se base quand même sur des contextes, des choses qui sont réelles. Voilà, avec bien sûr les interprétations qui sont inhérentes aux séries, au cinéma, aux jeux vidéo, à la littérature, bref, à la fiction. C'est normal, faut créer un petit peu de tension, un petit peu de drame, et c'est bien normal. Donc, dans cette série, on va suivre les aventures d'un gars qui s'appelle John Blackthorne, qui est un marin anglais qui navigue sous pavillon néerlandais et qui va s'échouer sur les côtes du Japon. Voilà, il est capturé par des Japonais et il se retrouve catapulté au cœur d'un monde qu'il ne connaît pas, avec des us et coutumes et des traditions qu'il ne connaît pas. D'ailleurs, il comprend rien, hein, il parle pas le japonais. Mais pour autant, c'est pas un pays qui est inconnu, puisqu'il y a déjà des Occidentaux qui sont installés sur l'île, à savoir les Portugais, les méchants Portugais, qui, dans cette série, en fait, sont arrivés quand même quelques années auparavant au Japon, et qui ont commencé à christianiser tout doucement l'île. Alors, il faut savoir qu'au début du XVIIe siècle, on a déjà une partie de la christianisation qui est en œuvre au Japon, et on a déjà des populations chrétiennes au cœur du Japon. Et ça, on le voit très très bien dans la série, hein, puisqu'on a déjà des seigneurs qui sont chrétiens, on a même une interprète qui va suivre notre héros durant toute la série, qui est chrétienne elle-même. Et donc, on va se retrouver plongé dans un espèce de contexte assez compliqué, où il y a à la fois une guerre entre plusieurs seigneurs, et en même temps, une guerre entre les chrétiens portugais et ce fameux anglais John Blackthorne qui débarque, qui lui est protestant et qui va dire aux japonais attention, parce que les portugais ils font semblant d'être votre pote, mais en vrai c'est pas vos potes, hein. Leur projet secret c'est juste que vous soyez tous leurs sujets, et ils essayent d'écarter toutes les autres nations de vous, les nations occidentales, pour conserver le pouvoir, tout simplement. Donc il a pas mal d'informations, ce John Blackthorne, qui peuvent foutre un petit peu le dawa dans ce Japon qui est tiré entre pas mal de jeux de pouvoir. Alors cette série, quand il débarque au Japon, on se retrouve dans un contexte où il n'y a pas très très longtemps, on a le Taiko, hein, qui commandait un petit peu tout le monde, qui est mort. Et ce Taiko, il est fortement inspiré du deuxième unificateur du Japon, Toyotomi Hideyoshi. Donc ce gars meurt, il y a un conseil en fait de régence qui est là et qui doit faire régner la paix en attendant la majorité de l'héritier. C'est le bordel parce que tous se tirent la bourre pour se tirer la couverture. Et donc, on va se retrouver, nous, à suivre une de ces grandes figures seigneuriales du Japon, Toranaga, qui est inspirée d'un autre unificateur du Japon, le troisième, Tokugawa Ieyasu. Il faut savoir qu'en gros, quand il y a eu cette période d'unification du Japon, hein, une fois que Tokugawa Ieyasu prend le pouvoir, suite à ça, on va vraiment entrer dans une période, une ère Tokugawa, qui est une période de paix, en fait, hein, où la figure de samouraï, d'ailleurs, va pas mal évoluer, parce que comment faire valoir les attributs du samouraï quand tu peux pas te battre, puisque c'est un guerrier par nature. Mais donc, on va retrouver celui qui ne dirige pas encore le Japon, mais qui est un peu un outsider, Tokugawa alias Toranaga, qui est là et qui va essayer de prendre le pouvoir. Et notre protagoniste, John Blackthorne, va se retrouver à la cour, finalement, de Toranaga. Il va commencer à apprendre quelques mots de japonais, il va commencer à apprendre leurs us et coutumes, et puis il va essayer de foutre le bordel en leur disant « Faites gaffe aux Portugais, il faut les dégager de là. Voilà. » En gros, c'est le pitch de cette série et honnêtement, il faut rentrer dedans. C'est-à-dire qu'au début, c'est un petit peu complexe, mais un peu complexe de par en fait l'éloignement géographique. Il est beaucoup plus simple, je trouve, pour nous autres occidentaux, de s'y retrouver dans les noms, dans la géographie, dans les époques, quand on parle avec des noms qui ont des sonorités dont on a l'habitude. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup de noms japonais, hein, pour le coup, et donc on peut vite un peu s'y perdre au départ, mais vous inquiétez pas, enfin, on retrouve nos petits, hein, c'est juste qu'il faut pouvoir rentrer dedans, et c'est vrai que le premier épisode est un petit peu lent, mais c'est bien, parce que ça nous permet aussi de poser un petit peu les bases de cette grande fresque qui va se dérouler sous nos yeux et qui est parfois un petit peu compliquée parce qu'il y a beaucoup de jeux de pouvoir, d'intrigues, de trahisons, etc. D'ailleurs, à ce titre, j'ai pu lire dans pas mal de médias qu'on le comparait à Game of Thrones un petit peu. Oui, moi j'étais plus ou moins d'accord, j'étais même pas très d'accord jusqu'à l'épisode 3 où il y a un petit, vous verrez, il y a un petit truc. C'est vrai que c'est une série où il y a eu une débauche de thunes, hein, et ça transpire aussi à l'écran. Il y a un très beau casting, il y a une très 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 belle image, il y a des très très beaux costumes, des très beaux décors, bref, tout est très beau. Petite réserve parfois sur certains effets spéciaux qui, je pense, vont mal vieillir, comme Game of Thrones hein, d'ailleurs. Mais c'est pas choquant, honnêtement, et pour moi, la cinématographie de cette série, elle est souvent sublime. C'est très très beau, et si vous aimez le Japon, si vous aimez les films sur le Japon, vous allez clairement vous y retrouver, vous allez être plongé dans cette ambiance très rapidement. Mais globalement, on n'est pas non plus dans une débauche, je trouve, de sexe et de violence à la Game of Thrones, même si on a des scènes qui sont quand même très crues et qu'on a quelques scènes violentes qui sont bien violentes. Voilà, c'est pas pour les gamins, clairement, mais en même temps, on était prévenus. Hein, c'est le Japon médiéval, on s'attendait pas à ce qu'ils tricotent des pulls pendant 10 épisodes. Voilà, petit disclaimer, mais moi j'ai l'habitude de regarder des séries en français, en doublage français ou en VO, peu importe, voilà. Mais c'est vrai que quand je regarde en VO, je regarde surtout en anglais parce que je comprends l'anglais. Là, il faut savoir que la série, même si on la regarde en français, il y a une bonne partie des dialogues qui vont se faire en japonais, sous-titré français. Il faut le savoir parce que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont pris l'habitude de regarder des séries en faisant autre chose à côté, comme par exemple du puzzle, hein, de la marque Callisto, qui est la marque qu'on a lancée avec ma femme, voilà. Donc, il y a des gens qui font des trucs à côté. Donc, pour les gens qui font autre chose à côté, ça peut être compliqué de suivre, à moins d'être bilingue japonais. Voilà. Il faut être concentré sur ce qui se passe à l'écran pour pouvoir lire et comprendre les enjeux. Donc, je sais que j'ai certaines personnes qui m'ont dit « Bah, moi, j'ai pas regardé parce que j'aime bien faire des trucs à côté. » Et là, je peux pas regarder cette série en faisant autre chose. Je suis obligé de me consacrer à 100% à l'écran. Bon, moi, je trouve que c'est pas un défaut parce que c'est plutôt chouette d'avoir ces sonorités et cette langue qui est mise en avant. Et puis, j'aime bien me consacrer vraiment à l'œuvre que je regarde, quoi. Ce qui est intéressant là-dedans, je l'ai dit, c'est que vous l'avez vu en introduction, je vous ai expliqué un petit peu le contexte historique. Alors attention, hein, j'ai tracé ça dans les très très grandes lignes, avec des approximations, tout ça. C'est juste pour que vous compreniez un petit peu les enjeux et le bordel que c'est à l'époque. Parce que là, on a l'équivalent du deuxième unificateur qui est mort, qui laisse une situation un peu branlante. Et du coup, derrière, il va falloir que le troisième unificateur, qui là est incarné par Toranaga dans cette fiction, se fasse sa place et puisse rassembler du monde autour de lui. Et bien évidemment, encore une fois, il y a beaucoup de trahisons, de choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est ce contexte un petit peu historique. Donc, même s'il y a des interprétations qui sont dues à la fiction, ça permet de saisir grosso modo ce contexte historique. Et ça, je trouve déjà, c'est pas mal. Voilà. Ça nous permet d'y voir un peu plus clair sur cette zone géographique qui est encore assez méconnue, même si le Japon a quand même beaucoup de choses à offrir en France et qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés du Japon, qui se sont renseignés dessus. Bah, l'histoire japonaise, ça reste encore quelque chose qui n'est pas très très connu de par chez nous ou qui véhicule encore pas mal de clichés. Et les clichés, alors il peut y en avoir, mais on voit tous ces samouraïs qui s'affrontent, on voit les jeux politiques qui sont en place et surtout on voit que les samouraïs, on a tendance à les imaginer comme des guerriers dont la fidélité, la loyauté est absolument à toute épreuve et que quand ils sont dédiés à un seigneur, ils sont jusqu'à la mort. C'est vrai dans une certaine mesure pour une partie des protagonistes, mais il y en a plein qui s'en foutent totalement et qui vont vraiment au plus offrant, quoi. Et ça, c'est bien. Parce que ça casse un petit peu ce cliché romantique qu'on a du samouraï. Et je trouve que là, on touche quelque chose avec Shogun à l'écran. Ça nous permet d'avoir une vision un peu plus complexe de cette figure du samouraï et de la géopolitique du Japon à cette époque-là. Ce qui est intéressant aussi, ça va être ce choc des cultures entre l'Occident et le Japon. On le voit au début, le protagoniste, même pas qu'au début, c'est-à-dire que même dans le 7e épisode, il y a des trucs que les Japonais font et lui il est en mode mais pourquoi ils font ça, quoi, c'est débile, pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme ça, et inversement, c'est-à-dire que lui est vu comme un barbare qui pue, qui prend pas de bain régulièrement. À un moment donné ils lui disent vous voulez prendre un bain, il fait bah deux fois la même semaine ça va pas, qui bouffe avec les mains, qui sait pas bouffer avec les baguettes. Donc il y a tout un tas le cliché est pris à rebrousse-poil où ils disent ouais mais c'est quoi ces occidentaux, quoi, qui sont crado et qui savent pas se comporter. Donc j'aime bien ce petit choc-là. Dans le dernier Samouraï, vous aviez ce truc où il y a aussi un choc, entre guillemets, des cultures, et le gars, il apprend et dit « Ah oui, je vois comment c'est... comment cette culture, elle est raffinée, elle est intelligente, et la philosophie et tout ça. » Bon, dans le dernier Samouraï, c'est extrêmement romantique, hein, très 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 romantique, le gars prend pas beaucoup de recul non plus. Là, il y a quand même beaucoup plus de prise de recul. C'est-à-dire que même s'il y a une compréhension de la culture japonaise et une acceptation de certains rites, de certaines traditions, du code, de la hiérarchie, de tout ça, parce que bah, c'est la société qui est organisée comme ça, et donc le gars, il faut qu'il s'y fasse, parce que bah, il vit dans cette société maintenant, il est prisonnier, il est bloqué de cette société-là, il n'y a pas forcément une acceptation tout de suite, et on sent que lui, il a des réticences par rapport à ce que lui connaît. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. De voir ce choc-là, ça permet d'un peu mieux comprendre les tenants et les aboutissants. Globalement, j'aime beaucoup l'ambiance, même si il peut y avoir quelques petites longueurs qui sont dues à ces jeux de pouvoir, hein, ces trahisons. Il y a beaucoup de politique où on voit des gars qui hésitent, qui se disent bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le pouvoir ? Est-ce qu'il faut s'allier avec lui ? D'accord, mais ensuite, s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a beaucoup de ça dans Shogun, mais pas que. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, encore dans un cliché qui vient démonter un peu le fantasme qu'on peut avoir sur certains samouraïs, on le voit très bien dans la série, on a plein de samouraïs qui ont ou des arcs, ou plus vraisemblablement, des fusils. Il faut savoir que les samouraïs, avant d'être des guerriers à l'épée, c'est surtout des archers. Déjà, ça, c'est aussi un gros cliché qu'on peut défoncer, et ça, on le voit bien dans la série. Et très rapidement, quand les armes à feu sont... importé au Japon, bah les gars s'y mettent. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es samouraï et que faut préserver ton honneur, etc., que tu vas aller te massacrer à coups de sabre quand il suffit de mettre un coup de fusil dans le gars d'en face. Et ça on le voit aussi. Et ça, c'est vraiment très très chouette. On voit aussi quelques femmes qui s'entraînent à se battre. Ça a existé, il faut surtout pas nier ça. En revanche, je mets un petit warning sur le fait de généraliser ça. Ça reste assez exceptionnel, assez tardif. La figure du samouraï, c'est une figure qui est très masculine. On est dans une société très patriarcale, donc il faut nuancer un petit peu ça. Mais ça a existé. Et comme je le dis très régulièrement dans les chroniques que je peux faire à droite à gauche ou les interventions que je fais à droite à gauche, pour le coup, moi je m'en fous un petit peu qu'il y ait des interprétations avec la véritable histoire, parce que Shogun de 2024, c'est une œuvre contemporaine qui a été créée en 2024. Et donc, elle est aussi le reflet d'une certaine culture qui est la nôtre en 2024, une culture occidentale. Et donc, forcément, on cherche à donner un rôle plus important aux femmes, même si ce côté patriarcal, il est extrêmement bien montré aussi dans la série. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Voilà. Mais donc, il faut faire la part des choses. Faut faire la part des choses sur ce qui peut être historique ou pas. Après, ce que moi, l'intérêt de séries comme ça, hein, c'est toujours justement de susciter une curiosité autour d'une période, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se renseigner sur le Japon de cette époque-là après avoir vu Shogun, parce que ils vont se dire ouais, mais alors ce personnage, il est inspiré de qui, et est-ce que ça c'était vrai, est-ce que ça s'est passé comme ça, quand le gars il s'est fait seppuku, est-ce que ça se passait vraiment comme ça, est-ce qu'il y avait autant de gars qui se faisaient seppuku, est-ce qu'il y avait à un moment donné on voit un gars qui fait déshonneur à sa famille et du coup il dit ah, je suis désolé, je vais me faire seppuku et j'aurai plus de, on va effacer ma lignée de la terre, donc en gros ils vont tuer son enfant aussi pour pas que... Voilà. Je trouve ça intéressant parce que ça induit pas mal de questionnements qui vont susciter sa curiosité, qui vont nous amener à découvrir finalement l'histoire. Voilà. On a aussi... on voit les maisons de plaisir avec les prémices des fondations des centres de gaïcha, ce genre de choses. Donc finalement, on explore une belle partie de l'histoire du Japon. Moi, en tout cas, c'est une série que je vous conseille, Shogun, que j'ai vraiment apprécié, encore une fois, pour son esthétique, pour ses acteurs qui sont vraiment pas mauvais. Vraiment, très 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 bon casting pour le coup, pour son contexte historique. Il y a des belles scènes d'action aussi. Voilà, je vous encourage vraiment à aller voir cette série. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires sous cette chronique, parce que c'est quand même chouette de ne pas avoir que mon avis, mais d'avoir le vôtre aussi, de pouvoir échanger autour de tout ça, parce qu'on n'a pas tous le même ressenti. Mais pour moi, la série Shogun, c'est un vrai oui. Voilà, foncez-y, c'est sur Disney+, et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, vous me ferez votre retour. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques ciné, séries, jeux, littérature, ce que vous voulez. Ciao, bis.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.